Bienvenue à la troisième édition du congrès virtuel francophone de FT. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Ce soir, nous sommes ensemble pour une conférence dont le titre est « EFT et les troubles sexuels ». Cette présentation va nous parler des interventions EFT en sexothérapie, que ce soit afin de mieux nous libérer de nos blocages ou tout simplement d'accroître notre confiance en nous, notre désir, notre sensualité ou augmenter notre capacité d'avoir des rapports plus longs ou plus épanouissants. Les relations humaines passent aussi par le corps, la sexualité et la sensualité, et toute communication de cet ordre sont tout aussi importantes que l'usage de la parole. Notre conférencier ce soir est spécialisé dans les traumas complexes et les troubles de l'attachement, ainsi que la sexothérapie. Il va nous présenter plusieurs façons d'aborder ce sujet sensible qui peut passer de la timidité maladive jusqu'aux troubles de l'érection ou au manque de libido. J'ai l'honneur d'accueillir le président de Thérapeutia et de l'Association francophone de psychologie énergétique clinique, Yves Vautet-Freyman. Bienvenue Yves.
Bonsoir Maria.
Merci à toi d'être là et de vouloir parler de ce sujet sensible, en effet. Alors, tout d'abord, en quoi l'EFT peut-il être utile dans le domaine des troubles sexuels?
Bien, donc, je dirais que l'EFT peut être utile dans plein de domaines, et il est clair que dans le domaine de la sexualité, où le stress est un moteur particulièrement important, parce que ça peut être un facteur justement de création de troubles, c'est clair que l'EFT a tout à fait sa place, puisqu'en stimulant les points, eh bien, on va pouvoir donc gérer, manager ce stress, le diminuer, et donc peut-être ramener les personnes dans une zone de confort, de confiance aussi, qui leur permet à ce moment-là de s'épanouir.
D'accord. Et quels sont les troubles sexuels, plus précisément, que l'EFT peut aider? Et quand est-ce qu'on peut le faire? Comment ça se passe?
Mais donc, par exemple, pour les hommes, les hommes, c'est clairement les troubles de l'érection, la libido. Hein, donc, en cas de stress, on va dire le sang n'afflue pas là où il faudrait qu'il aille, où l'homme n'arrive pas à se laisser aller, à fantasmer ou à simplement ressentir les sensations de son corps. Donc, il y a des perturbations à cause des niveaux de stress. Et donc, dès que nous percevons ce type de perturbation, ça peut tout à fait créer des troubles de l'érection. Et donc, par exemple, l'homme n'y arrive pas, tout simplement. Il n'arrive pas à avoir suffisamment d'énergie sexuelle que pour pouvoir avoir une érection correcte et satisfaisante, ce qui, évidemment, va créer des frustrations tant chez lui que chez son ou sa partenaire. Et donc, ça peut tout à fait jouer. Ça, c'est un des exemples. Un autre exemple, c'est justement cette incapacité à lâcher prise et à se laisser vraiment dans le ressenti. Et à nouveau, donc si on ne peut pas ressentir les sensations et qu'on reste dans le mental, ça peut provoquer toute une série de choses. Pour parler, par exemple, de l'aspect féminin, vous savez que les hommes et les femmes n'ont pas tout à fait le même déclencheur au niveau de la sexualité. Donc les hommes, souvent, ont vraiment besoin de montrer par l'acte sexuel qu'ils aiment leur partenaire, et cet acte va renforcer leur conscience qu'ils aiment la partenaire ou le partenaire. Et chez la femme, en général, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt d'abord cette communication, c'est cette présence, c'est ce partage qui vont faire que la femme se sent aimée, et donc que cela puisse l'ouvrir à une plus grande sensualité, une plus grande sexualité également. Donc, il y a déjà deux mondes, deux univers complètement différents. Et c'est clair que pour une femme, par exemple, si, à nouveau, elle est stressée, pas suffisamment détendue, trop dans son mental, sans communication, sans l'impression d'être entendue par son partenaire ou sa partenaire, eh bien, ça va la bloquer et, à nouveau, ça va provoquer une incapacité de relations épanouissantes. Je me souviens comme ça de plusieurs cas où beaucoup de femmes se plaignaient que la tête pouvait dire oui, mais le corps disait non, ou l'inverse. Le corps dit oui, mais la tête est tellement obnubilée par ce manque de communication, cette impression de ne pas être entendue par le partenaire ou la partenaire, qu'elle est incapable de se laisser aller dans le corps et dans le ressenti physique. Voilà.
D'accord, oui, ça c'est l'une des différences entre la sexualité de l'homme et de la femme.
Voilà. Et donc, c'est clair que quand vous stimulez des points d'acupression, ce qui se passe, hein, donc pour rappeler ça peut-être brièvement, donc on sait scientifiquement maintenant, donc ça a été démontré dans toute une série de recherches, que lorsque vous stressez, hein, c'est au niveau de votre cerveau, vous allez passer en général au niveau de ce qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est le cerveau de la survie, et donc ce cerveau va activer toute une série de réflexes. D'abord, il va couper l'accès au cerveau pensant, donc vous pouvez essayer de vous raisonner le plus possible, vous n'arriverez plus à vous calmer parce que le cerveau pensant n'a plus d'accès direct à ce qu'il se passe au niveau de votre corps. Le cerveau reptilien va également demander au cerveau limbique qui s'occupe de toutes les réactions physiologiques, et évidemment, dans la sexualité, les réactions physiologiques sont primordiales. Donc il va demander une augmentation des niveaux de cortisol, qui est l'hormone de stress, augmentation de l'adrénaline, hormone de stress. Et donc si vous êtes déjà stressé et qu'on augmente encore vos niveaux de stress, eh bien ça devient tout à fait impossible d'avoir des réactions physiologiques, on va dire, naturelles ou normales. Donc dès ce moment-là, quand on stimule les points d'acupression, et c'est une des grandes richesses de l'EFT, c'est qu'on a pu observer, et donc des grandes universités comme Yale, Harvard, ont fait ces études, on a pu observer que on va déclencher une réaction de sécrétion d'hormones de relaxation. Donc en gros, lorsque vous stressez, c'est le système sympathique qui porte assez mal son nom qui s'active, et quand vous
Oui,
stimulez
parce
les
que
points
la plupart du temps,
d'acupression,
il n'est pas sympathique avec nous.
il n'est pas sympathique du tout. Donc, quand on stimule les points d'acupression, on va stimuler ce qu'on appelle le système parasympathique. En gros, c'est un peu, vous stressez, c'est l'accélérateur. Vous stressez, enfin, on tapote sur les points d'acupression, ben vous stimulez le frein. Si vous observez cette image, si vous avez déjà essayé de faire ça, si vous appuyez en même temps sur l'accélérateur et le frein, ben c'est clair que votre moteur va hurler certainement, mais vous allez ralentir et à un moment vous allez vous arrêter. Et donc,
Oui.
en EFT ou en psychologie énergétique en général, lorsqu'on stimule des points, eh bien, on va dire au cerveau limbique, qui s'occupe du corps, de stimuler et d'augmenter les niveaux d'hormones de relaxation. Donc en gros, on va augmenter la sérotonine, on va augmenter les endorphines, comme si vous faisiez une bonne séance de gym. Et donc le corps et le cerveau se retrouvent confrontés, on va dire, à des ordres contradictoires. Et donc on va commencer à déconditionner le problème. Et donc si on arrive à casser l'association des pensées, des souvenirs, des événements traumatiques ou qui sont interprétés comme étant traumatiques, avec la situation présente, en tapotant, eh bien, on casse ce conditionnement, et du coup, l'association qui est faite inconsciemment dans notre cerveau, dans nos mémoires, eh bien, elle est déconditionnée, elle est désactivée, elle est désensibilisée. Dès que c'est fait, eh bien, on peut reprendre une vie sexuelle normale ou sensualité normale, et donc on peut se laisser aller. Donc l'EFT, à tout le moins, peut avoir une action déjà de relaxation, donc augmenter cette relaxation, donc va faciliter le passage à la détente et pour les hommes à une plus grande tension sexuelle cette fois-ci, et pour la femme une plus grande détente, une plus grande bulle d'accompagnement, d'amour, de compréhension, etc. Et donc va pouvoir permettre à la femme de se relâcher suffisamment que pour pouvoir déclencher le désir chez elle et donc d'avoir une relation sexuelle tout à fait épanouissante et satisfaisante. Donc on voit que c'est vraiment un outil qui est très très important et qui peut avoir une action. D'autant plus que c'est facile. On peut le faire quelques minutes, quelques secondes. On peut le faire avant de passer à l'acte pour ceux qui se sentiraient stressés avant. Donc ils peuvent l'utiliser de façon naturelle. On peut le faire tous les jours. On peut visualiser aussi l'acte d'amour pour justement déconditionner tout ce qui ne serait pas chouette et se laisser simplement aller au ressenti, etc. Voilà toute une série d'applications que l'EFT peut avoir et qui peut vraiment avoir un effet tout à fait boostant, tant pour l'homme que pour la femme, quel que soit leur type de relation.
Et toi, justement, quand tu travailles avec des personnes en séance pour des troubles sexuels, Là, vous allez plutôt travailler sur la confiance, sur des expériences traumatisantes du passé, peut-être. Et ensuite, la personne peut faire un travail aussi, je dirais, sur le terrain, juste avant l'acte, effectivement, presque dans le feu de l'action.
Oui, tout à fait. Mais dans le feu de l'action, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, voilà, si je reçois le patient, si je reçois le patient, par exemple un homme, hein, je pourrais peut-être illustrer ça par quelques phrases de tapping. Je vais d'abord demander à l'homme depuis quand il souffre de ces troubles. Donc, qu'est-ce qu'il a observé? Donc, on va vraiment essayer de cibler correctement. Et je pense que ça fait partie vraiment de la qualité d'un travail peut-être quelquefois un petit peu plus clinique, c'est vraiment aller chercher les racines, les origines du problème. Donc souvent on va demander à partir de quel moment la personne, que ce soit un homme ou une femme, a remarqué qu'elle avait ces difficultés. On va rechercher des événements typiques liés à cela dans l'année qui précède les premiers déclencheurs qu'on a pu repérer. Ça, c'est vraiment une base. Dans l'année qui précède, le premier déclenchement, le premier symptôme du problème, il y a toujours un événement. Si la personne a accès à l'événement, eh bien, on va aller traiter cet événement en direct, on va aller le cibler, et puis comme en EFT, vous le savez, eh bien, on va aller chercher le moment le plus difficile, l'image la pire. Si on n'a pas d'image, on va prendre les autres sens, hein, donc ce que j'ai pu entendre, les sensations, etc. On va aller repérer ce qu'on appelle la cognition, c'est-à-dire la croyance qu'on a développée autour de ce problème. Ça peut être j'y arrive pas, hein, je suis pas capable, je suis pas désirable, je ne suis pas aimable, je suis pas doué, etc. Et on va aller vraiment déconditionner le problème. Donc on va partir de l'événement. Et donc par exemple, je vais tapoter sur le point karaté. Hein, je vais dire même si j'ai ce problème qui m'empêche d'avoir une bonne érection si je parle pour les hommes. Je ferai un exemple avec une femme plus tard. Bien voilà, qui m'empêche d'avoir une bonne érection, je stresse, hein, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et puis, ce que j'ai proposé, je vais vraiment travailler, c'est quelque chose qu'on développe aussi dans un autre outil qu'on appelle REMAP, on développe un recadrage, c'est-à-dire on va reconnaître le problème et on va aussi recadrer, c'est-à-dire on va le remettre en perspective avec la réalité et avec des choses réelles que la personne a pu vivre, et puis on va ouvrir sur quelque chose qui serait possible. Donc on va faire un recadrage en 5 points. Donc on commence par le même si. Donc c'est ben même si j'ai ce problème d'érection et que j'arrive vraiment plus à bander, hein, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Donc étape 1, étape 2. L'étape 1, c'est le problème. L'étape 2, c'est je m'aime et je m'accepte comme on fait en EFT, tout à fait classique. Et puis une étape 3 qui est reconnaître le problème. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ont du mal à reconnaître leur problème. Ils ont du
Oui, ils
mal à
préfèrent ne
reconnaître
pas
la
y penser.
réalité. Voilà, ils ne veulent pas y penser, on veut effacer. Et ça crée évidemment, ça ne peut qu'augmenter une tension interne, c'est-à-dire que dans la personne, hein, vous devez imaginer, un être humain, c'est comme des matrioshkas, ces poupées russes qui sont imbriquées les unes dans les autres. On a des tas de parts de nous. Il y a des parts qui sont volontaires, il y a des parts qui en ont marre, il y a des parts qui sont tristes, il y a des parts qui sont joyeuses, etc. Et donc, si c'est la part qui est bloquée et qu'on la bypasse, donc on l'ignore, en ne la nommant pas plus clairement que ça, eh bien cette part peut se cristalliser, peut se noyauter encore plus et vraiment bloquer tout le processus de guérison. Donc, dans les phrases classiques, ce serait ceci, ben même si j'ai ce problème d'érection, j'arrive plus à bander, hein, j'ai popole en berne, hein, j'ai le drapeau qui flotte, etc. On peut réajouter vraiment des touches d'humour pour dédramatiser la situation. Ben je m'aime et je m'accepte. Ou peut-être pas d'ailleurs. Je m'aime et je m'accepte peut-être pas avec ce problème. Et c'est normal ou naturel que je puisse avoir popole en berne, quoi. J'ai un stress mais monumental au niveau de mon boulot, au niveau de ma vie privée. J'ai eu un souci, je ne me suis pas senti désiré parce que voilà, j'ai pris 20 kilos. Hein, et donc je reconnais vraiment le problème. Et puis on va illustrer quatrième étape avec un élément vraiment vrai. On va dire, mais d'un autre côté, pendant des années, hein, évidemment, il faut que ça soit vrai. Hein, donc, en même temps, d'un autre côté, pendant des années, j'ai pu bander comme un torrent, quoi. Il n'y a pas eu de souci. Hein, ça pouvait être dur, long, fort, longtemps, etc. Donc, on va nommer des événements qui sont réels. Donc, il faut évidemment qu'avant, on ait un peu investigué si ça s'est passé. Si ce n'est pas vrai, on ne peut pas le nommer. Alors, il faut trouver quelque chose d'autre, un élément réel, du
Oui,
style,
on peut
d'un autre
choisir une
côté,
autre
j'ai eu
ressource, une
d'autres
autre
relations
situation.
avant celle-ci où j'avais une sexualité tout à fait épanouissante, tant pour
Oui.
moi que pour mon compagnon ou ma compagne. Et puis, on va prendre la cinquième partie, c'est cet élément-là qui est le plus important à mon sens, avec la reconnaissance du problème, c'est on va ouvrir une possibilité. Et ça, c'est toute la richesse de l'EFT, c'est de laisser justement cette facilité d'adaptation. Et donc, ça sera, par exemple, et d'un autre côté encore, une autre réalité encore, mais je m'ouvre simplement à la possibilité, ou je peux m'ouvrir à la possibilité que je puisse simplement vivre et ressentir les choses différemment. Et on ne va pas préciser plus ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que l'inconscient, et c'est la grande richesse de l'être humain, l'inconscient va trouver par lui-même les bonnes portes, les bonnes clés qui vont lui permettre de réouvrir cette sensibilité, cette sensualité, cette érectibilité dans l'exemple que j'avais pris, et donc qui vont permettre effectivement de passer à l'acte de façon beaucoup plus volontaire. Il faut vraiment pas hésiter avec ça. Je donne un exemple pour une population, on va dire, un peu plus gay, hein, un peu plus homo. Je me souviens que c'est d'une session qui a été vraiment, c'était vraiment très drôle parce que la personne donc vient me voir et me dit, voilà, avec mon compagnon, j'arrive pas à la pénétration, je n'arrive pas à bander. Donc la personne n'était pas d'origine francophone, donc elle parlait au départ une autre langue, donc on a fait la session en français, et donc j'ai dit, mais ce serait quoi ton mot de rappel? Et donc il me dit, ben, je ne peux pas l'enculer, quoi, je peux pas le prendre. Je dis, ok, je dis, c'est quoi l'image la pire? Ben, c'est au moment où je passais à l'acte, j'y arrive pas. Et donc on a commencé vraiment à tapoter là-dessus avec ce mot, je peux pas l'enculer, je peux pas l'enculer, vraiment en hurlant, vraiment comme des putois. Donc on a fait ce qu'on appelle la technique du volcan pour ceux qui connaissent. Donc on va vraiment pousser la personne dans son émotion en lui disant, mais vas-y, hein, vas-y, crie le plus fort possible, dis tout ce que tu aurais voulu crier, toute ta frustration, ta rage, etc., etc. Et donc on a fait ça en ronde de tapping, donc en tapotant, 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 en criant ces mots. Et au bout de 2, 3 minutes, la personne tout d'un coup s'est arrêtée et s'est dit, mais waouh, quoi, je sens une énergie en moi qui recircule, vraiment. Je dis, ben, repense bien à l'image, repense peut-être à ce soir ou à demain quand tu le vois, etc. Et donc toute cette peur s'était complètement évanouie. Donc on avait pu vérifier le passé, donc le blocage. On a vérifié dans le présent ce qu'il ressentait, il était tout à fait à l'aise avec la situation. Et puis on est passé au futur. Je dis, ben, imagine-toi ce soir ou demain soir. Hein, en train d'avoir un bon bain romantique, les bougies, tu crées toute condition, tout l'environnement agréable pour pouvoir passer à l'acte, et tu te sens un peu bloqué, qu'est-ce qui se passe? Et donc tout le blocage avait complètement disparu, et la sexualité est redevenue totalement normale et épanouissante. Donc c'est vraiment travailler sur ce type de blocage. Donc hein, c'est vrai qu'on va toujours visiter le passé, le présent, et puis une futurisation, une visualisation du passage pour voir si dans la tête il n'y a pas de pensée saboteuse qui se présente, pas de sensations désagréables qui apparaissent. Et si c'est le cas, si on arrive vraiment à amener toutes ces sensations et ces pensées négatives ou bloquantes à zéro, et bien vous avez terminé votre travail, hein, et vous pouvez retrouver vraiment une relation des plus épanouissantes.
Oui, c'est un bel exemple, effectivement.
Oui, j'ai pris un exemple un peu étonnant peut-être, mais c'était vraiment génial parce que cette personne est arrivée, donc c'était un beau grand mec comme ça, mais complètement bloqué, quoi. Il était vraiment décomposé parce que il disait, je vais me faire jeter, quoi. Je vais me faire jeter, je vais pas pouvoir continuer cette relation, mais moi j'aime mon partenaire. Je veux vraiment que ça soit épanouissant sur tous les plans, sur tous les aspects. Et donc c'est vrai que très rapidement, on peut vraiment obtenir des effets de relaxation, puis de déconditionnement, et on est reparti. Hein. Je dirais, la machine se remet en route. La thérapie provocatrice aussi est très importante. Hein. C'est vrai que j'aime bien ces aspects-là. C'est très très drôle. C'est très très drôle à utiliser. Quelquefois, avec des patients, on peut vraiment créer des situations tout à fait cocasses. Je me rappelle comme ça une autre session. C'était aussi avec une. C'était donc un patient qui avait du mal à se laisser aller à l'éjaculation. Et donc il n'y arrivait pas, quoi. Et donc on travaille tout ça. On l'a traversé en hypnose, en stimulant des points d'acupression. Et puis à un moment, donc ça se passe bien. Et puis il me dit que ben non, ok, maintenant il arrive à se laisser aller. Puis quelques mois plus tard, il revient. On travaille d'autres sujets et il me dit, tu sais, tout d'un coup, j'ai quand même un doute, est-ce que ça pourrait pas revenir? Donc, comme s'il y avait une petite tache comme ça qui traînait dans le ciel. Et donc, j'ai commencé à faire tapoter là-dessus, bon, ça pourrait peut-être revenir, Hein, donc, bord de l'œil, oh, ça va sûrement revenir. Et puis en dessous de l'œil, ah non, ça va pas revenir. Hein, ça fait quand même 6 mois que ça fonctionne. Sous le nez, mais non, non, hein, ça va pas tenir, c'est pas possible. Hein, ça m'a enquiquiné pendant 5 ans. Puis sous les lèvres, bref, mais non, ça fait quand même 6 mois que tout fonctionne bien. Et puis sous la clavicule, ah oui, mais c'est parce que j'ai envie d'avoir un enfant. Et du coup, il y a une pression nouvelle qui était apparue. C'était ça l'origine du problème. Je dis, ah, mais je veux avoir un enfant. Puis sous les bras, mais peut-être que j'ai peur d'avoir un enfant. Hein, que... Il y a une part de moi qui, du coup, se dit, ah, et si à nouveau je n'arrivais plus à éjaculer, et puis sous, etc. Et puis j'ai une colère contre moi, parce que quand même, c'est mon corps, il me trahit, hein, et puis sous les pectoraux, puis au bord du pouce, oui, mais j'arrive pas à respirer correctement, je me sens un peu angoissé, puis bord de l'index, oui, mais si c'était cette peur d'être papa qui me bloque, etc. Et oui, mais non, ça va peut-être pas tenir, hein, bord du majeur, puis petit doigt, l'auriculaire. Ah oui, mais si jamais vraiment j'avais peur d'avoir cet enfant et que j'étais un mauvais père, etc. Et donc on est remonté sur toutes les sources et les racines du problème. Et puis à un moment, je voyais qu'il restait une toute petite touche. Et puis je lui dis, tu sais, j'ai un point tout à fait magique qui peut vraiment t'aider à guérir. Donc je vais te demander de continuer à tapoter le bord des doigts, mais tu mets bien tes mains à plat aussi contre le bureau. Hein, tu te mets debout, ok? Puis moi, je me suis levé, je me suis levé, j'étais derrière la personne, donc j'avais évidemment un très très bon lien thérapeutique avec la personne. Hein, je fais pas ça avec un
Oui,
inconnu qui
pas
débarque.
forcément attesté
Et
en
puis j'ai
première
dit,
séance.
écoute, maintenant, je te propose de baisser ton pantalon, hein, et on va voir. Je connais vraiment un point magique. Tu vas voir, normalement, il n'y a pas de souci ici. Je touche ce point, c'est réglé. Évidemment, la personne s'est saisie. Elle me dit, mais hein, quoi, comment? Et alors, comment tu te sens avec ton stress? Il dit, non, non, ça, c'est fini. Tout va bien. C'est terminé. Je sens
Oui, mais tu lui avais
enfin
créé un
une
nouveau stressive.
forme. Et donc, il a éclaté de rire. Il a éclaté de rire. Et je dis, tu vois, je pense que t'es vraiment un mec et je pense que tu pourras avoir ton petit loulou, quoi. Il m'a regardé, il dit, oui, écoute, définitivement, c'est tout à fait clair. Et donc, c'était simplement des peurs qui avaient réapparu, mais ça n'avait rien à voir avec la sexualité, c'était la peur de la paternité. Donc, et du
Oui.
coup, évidemment, hein, l'anorgasmie, l'incapacité de se laisser à éjaculer, et donc, du coup, d'avoir un enfant. Donc, c'est vrai que quand on est confronté à ce genre de situation, il faut garder l'esprit totalement ouvert, quelle que soit votre propre sexualité ou vos préférences, et vous mettre simplement dans la tête du patient et s'imaginer, OK, mais qu'est-ce qui pourrait avoir créé à nouveau un stress alors que dans sa vie tout va bien, il a de nouveau des relations sexuelles épanouissantes, il communique correctement avec son épouse ou son époux, etc. Donc toujours garder l'esprit ouvert. C'est vrai que cette session-là a été très très drôle. Il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à être thérapeute, et donc c'est resté un grand moment en tout cas pour moi.
Oui, c'est sûr que la thérapie provocatrice peut être très aidante dans ce genre de sujet qui reste tabou et difficile à aborder pour beaucoup de personnes.
Oui, c'est
Donc,
clair,
le
c'est
fait
tout
de
à fait
mettre
clair.
de l'humour, ça peut faire baisser la garde, sinon le
C'est le cas
pantalon.
de le dire, mais... ou la relever.
Voilà, selon le problème du jour, effectivement.
Là, les écluses étaient fermées, tu vois, c'est hop, c'est non.
Oui.
Mais c'est vrai que la thérapie provocatrice, tout l'humour et l'amour du thérapeute, ce qu'on appelle vraiment le lien, c'est vraiment fondamental. Alors c'est vrai que si les personnes travaillent sur elles-mêmes, eh bien on peut utiliser ce même humour aussi. On peut se mettre devant une glace, par exemple, et commencer à rigoler de voir sa tête, dire oh là là, mais qu'est-ce que je me mets comme pression, etc. Donc il faut vraiment pas hésiter à utiliser la dérision, parce que comme vous tapotez en même temps, vous n'allez pas ancrer le problème, vous allez au contraire le déconditionner, le casser, le démonter. Donc il ne faut
Oui.
pas hésiter à en remettre 3 couches. Au plus vous
Oui.
exagérez, ben, au mieux ça sera. Hein. Donc je me rappelle comme ça d'une session dont Jean-Michel Guret m'a parlé. C'était aussi le même genre. Donc c'était une session qui devait passer normalement à la télévision. Et donc une personne est venue parce qu'il avait vraiment des problèmes d'érection. Ça faisait, si ma mémoire est bonne, je crois que ça faisait 2 ans qu'il n'y arrivait plus. Et Jean-Michel a tellement exagéré en disant j'ai le popole en berne, j'ai le drapeau qui flotte, j'ai le zizi coin-coin, j'ai Castor qui tire la gueule à Pollux, etc., que, en tapotant très fort, que pendant la session, tout d'un coup, la personne s'est arrêtée et dit mais je bande. Et donc, il avait eu une érection pendant la session, et c'était fini, c'était vraiment fini. Donc le truc avait été tellement démonté par la provocation que la personne s'est complètement sentie libérée de toutes ces tensions qui le bloquaient et s'est laissée aller. Donc, la suite, je ne sais pas. Il faudrait demander à Jean-Michel ce qui s'est passé, hein, si Jean-Michel a eu peur ou pas. Hein, mais ça, vous savez qu'on a une très grande complicité entre Jean-Michel et moi, et donc ça fait partie de nos questionnements.
Oui, et l'avantage pour le thérapeute dans cette situation-là, c'est que comme nous tapotons avec nos patients, avec nos clients, on peut en même temps traiter les éventuelles émotions que ça peut réveiller en nous.
Tout à fait, tout à fait. Parce que, bon, un aspect dont on n'a pas parlé, c'est que certains troubles de la sexualité viennent évidemment de traumas. Hein. Donc, c'est que il y a des personnes qui ont pu avoir des maltraitances ou des abus. Et donc, c'est vrai que ça fait aussi toute une partie de cette frange-là. Et ça peut se traduire de différentes façons. Soit ça peut se traduire par exemple, des personnes qui se protègent en prenant, par exemple, une surpondération. Elles prennent beaucoup, beaucoup de poids pour surtout ne pas être désirables. Hein, donc, c'est un symptôme aussi qu'on peut repérer quelquefois d'abus. Quelquefois, au contraire, il peut y avoir une hypersexualisation, même chez les enfants. Et donc, cette hypersexualisation peut provoquer aussi, évidemment, des comportements tout à fait débridés, vraiment exagérés au niveau sexuel. On peut rencontrer aussi ce type de comportement, quelquefois, au moment de, par exemple, si je reparle 2 minutes de la population gay, lorsque l'homme fait son coming out, quelquefois, il a eu une telle pression pendant des années, quelquefois des dizaines d'années d'interdits, qu'il peut y avoir vraiment une consommation effrénée au niveau de la sexualité, avant que parfois ça se régule à nouveau, on retrouve un juste milieu. Il y a vraiment des tas de schémas différents. Donc c'est clair que si on travaille sur des choses plus complexes, avec des troubles de l'attachement ou des abus, on ne peut pas travailler sur les événements du passé d'abord, on va devoir travailler d'une façon complètement différente. On va vraiment devoir travailler sur la confiance en soi dont on parlait tout au début. C'est vraiment aller voir si la personne a des ressources internes suffisantes que pour pouvoir avoir une belle image d'elle. Et on va devoir d'abord travailler sur cette image-là avant que de pouvoir aller travailler sur les déclencheurs, donc ce qui crée du stress ici et maintenant. Et puis seulement en dernier moment, on pourra aller vers les événements du passé. Si vous voulez aller trop vite vers les événements du passé, comme on apprend en EFT classique, vous n'allez faire qu'une seule chose, c'est bloquer le processus encore plus fort ou jouer au yo-yo avec le patient. C'est-à-dire que ça va aller mieux, ça va revenir, ça va aller mieux, ça va revenir, voire pire, quelquefois, ce qu'on appelle un déplacement de symptômes. La personne retrouve une sexualité plus épanouissante, mais il commence à fumer ou commence à boire ou commence à manger. Donc, ce qu'on appelle un déplacement de symptômes, un glissement de symptômes, qu'on retrouve quelquefois d'ailleurs sur les addictions. Hein. Donc, quelqu'un qui veut arrêter de fumer, qui commence à trop manger, ou à faire trop de sport ou ce genre de choses. Donc là, c'est vrai qu'il faut quand même aller vérifier sur ce sur quoi on travaille. Oui, pour ça, je pense que le rôle d'un professionnel est important.
Mmh. Alors justement, dans ta pratique, on parlait de la thérapie provocatrice qui peut faire baisser les barrières et permettre de parler de choses qui ne sont pas faciles à aborder. Est-ce que tu peux proposer quelques autres solutions? Parce que j'imagine que tu rencontres des personnes qui ont vraiment du mal à parler de ces problèmes, de leurs troubles. Est-ce qu'on peut utiliser des images?
Voilà. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire, ça vient un petit peu des thérapies cognitivo-comportementales, on peut remettre la personne en situation, hein, on va dire, en situation. On peut demander aussi aux personnes de, par exemple, de regarder des parties de leur corps, des parties qu'ils n'aiment pas, etc., mais de tapoter en même temps. Ce qui est surtout important, c'est de bien stimuler en même temps des points d'acupression, parce que c'est cette stimulation-là qui va casser l'association d'idées que l'on peut avoir, donc les peurs que l'inconscient a enregistrées ou mémorisées. Donc il faut vraiment stimuler en même temps, mais par exemple, on peut regarder des parties de corps. On peut demander aux partenaires de jouer, de faire des rôles, c'est-à-dire de s'amuser à créer des nouvelles situations. Pour parler des femmes, les femmes ont vraiment besoin de sentir cette connexion plus profonde elles-mêmes avec le partenaire et donc demander au partenaire d'abord de caresser toutes les parties qui ne soient pas des parties érogènes. Donc vraiment prendre dans les bras, expliquer peut-être ce qu'il ressent vis-à-vis de son compagnon, de sa compagne. Si je parle des femmes, expliquer ce que je ressens vis-à-vis de ma compagne. Lui expliquer toutes les sensations, toutes les émotions que je peux ressentir, toute la joie que je peux avoir à me réveiller auprès d'elle, à la voir dormir ou à l'écouter, à la fréquenter simplement au jour le jour, la voir dans tous ces états dans ces différentes humeurs, etc. Donc vraiment créer ce lien, cette connexion. C'est vrai que les hommes, souvent, c'est un peu aux antipodes de leur fonctionnement, parce que comme pour eux, c'est l'acte sexuel qui crée cette, on va dire, ce renforcement du lien, ils ont évidemment tendance à projeter que c'est donc ça qu'il faut pour la femme, mais alors qu'évidemment c'est tout à fait le contraire. Il faut d'abord créer cette connexion. Et donc c'est vrai que faire communiquer les partenaires, c'est très important. Donc ici, on peut leur demander de parler ensemble. Ils peuvent tapoter, stimuler les poings tout en parlant ensemble. Donc faire ce qu'on appelle le tapping continuel, le continuing tapping, par exemple tapoter le bord des doigts comme en EFT, mais d'une main, tout en se parlant. Se proposer d'avoir des moments de rencontre, prendre même des rendez-vous, dire tiens mais voilà, alors on pourrait me dire oui mais ça va tuer la spontanéité, mais le but n'est pas l'acte sexuel en tant que tel, le but est de créer du lien entre eux, de renforcer le lien, et donc dire tiens mais voilà, on prend rendez-vous le vendredi, hein, on arrête de bosser plus tôt, même s'il y a les enfants, soit on demande à la famille ou quelqu'un de les garder, on peut partir un week-end, on peut faire créer donc un environnement qui est beaucoup plus romantique, etc. Et on va simplement parler, tapoter, se masser, se toucher, donc créer vraiment cet environnement pour recréer cette complicité, cette intimité qui fait souvent défaut dans notre vie hyper stressante. Et donc vraiment recréer cette intimité, cette complicité. Et tout en tapotant des poings, même si je ne dis rien d'autre que ça, simplement en stimulant des poings, en faisant cet acte-là, vous allez augmenter, accélérer le processus de retrouvailles, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire, c'est justement le fantasme, la puissance du fantasme, j'ai envie de dire, du rêve éveillé est très importante en sexualité. Eh bien, par exemple, on peut demander aux personnes de penser à leur fantasme tout en stimulant les poings. Alors, ça ne va pas déconditionner le fantasme, ça va ancrer de façon beaucoup plus profonde tous les éléments positifs, puisque vous allez augmenter les sécrétions d'hormones de relaxation, donc la sérotonine, les endorphines, etc. Donc en faisant ça, bien vous faites un ancrage positif. Donc un des gros avantages de l'EFT, c'est que quand vous tapotez, bah, vous enlevez le négatif, mais vous ancrez, vous renforcez le positif. Donc c'est super important d'enlever le négatif, parce que c'est ça qui va faire que vous guérissez de votre problème, mais c'est intéressant aussi d'amplifier le positif. Et donc on peut travailler comme ça également. Visualisation, tout en tapotant ce qu'on veut. Par exemple, si j'ai un problème je ne peux pas tenir plus de 5 minutes, les gens qui auraient une éjaculation précoce, eh bien, je vais imaginer, me visualiser, tenir 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Il faut savoir que d'un point de vue technique, physique, physiologique, si vous dépassez une minute et demie, vous pouvez tenir 2 heures si vous voulez. Hein. C'est plus que tout se passe dans la tête et par des phénomènes mécaniques. C'est la respiration qui va être très importante. C'est la tension musculaire qui va être très importante. Plus vous êtes tendu musculairement, donc plus les positions vous demandez, vous exigez des tensions musculaires, au plus vite la personne, en tout cas le mâle, va aller vers l'orgasme. Au plus les positions sont relaxantes, au plus vous respirez par le ventre, au plus long vous allez pouvoir tenir avant d'atteindre l'orgasme. Donc c'est super important de bien mesurer ça, de le savoir. C'est vraiment ce qu'on appelle la sexo-fonctionnelle, c'est vraiment savoir comment le corps fonctionne. Et pour la femme, et donc c'est un peu l'inverse. Pour la femme, il y a besoin de tout cet environnement de caresses non sexuelles au départ, et puis peut-être de parler, d'expliquer le ressenti, pour augmenter le désir chez la femme. Et quand le désir augmente, on peut passer à des caresses plus sexuelles, etc. Et si vous êtes déjà dans l'acte, bien vous pouvez stimuler aussi des points d'acupression. Si vous sentez que ça s'emballe trop, ou si la femme sent qu'il y a trop de stress, eh bien on peut stimuler des points d'acupression. Vous pouvez masser des points d'acupression, ça peut participer du jeu des caresses, mais vous allez stimuler des points d'acupression, mais tendrement, etc. Donc vous créez tout le contexte pour justement accélérer ce processus-là.
D'accord. Alors tu mets en évidence que ce problème de sexualité dans beaucoup de couples peut en réalité être un problème de communication. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent ce soir. Imaginons une femme qui a des problèmes dans son couple de communication et de sexualité et qui nous écoute ce soir. Est-ce que tu peux donner quelques conseils pour comment amener ça au sein du couple? Comment en parler à son conjoint ou à sa partenaire qui n'est peut-être pas du tout au courant de ces pratiques? Ces pratiques, j'entends bien sûr les pratiques énergétiques.
Alors, donc c'est effectivement, c'est une très 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 bonne question parce que souvent on n'ose pas dire au partenaire, hein, on n'ose pas lui dire parce qu'on a l'impression que on va le
Ben oui,
blesser,
et on a
il va pas
déjà du
bien.
mal à en parler, alors en plus je vais
Voilà.
arriver avec un truc bizarre
Voilà.
là qu'il faudrait qu'on fasse en plus.
Mais donc la seule solution, c'est en parler tout simplement. Donc, si vous êtes dans, si vous vous êtes connecté à l'amour que vous avez pour votre compagnon, votre compagne, vous pouvez simplement le dire avec énormément d'amour et de présence. Vous dire, tiens, mon chéri, je voudrais simplement pouvoir, tout en tapotant, vous pouvez vous tapoter, comme ça va gérer votre stress, ça va vous maintenir dans une zone de confort suffisante pour pouvoir en parler en n'étant pas stressé. Et vous pouvez simplement aborder le sujet très tendrement en disant, tiens, mon chéri, tu sais, il y a des points que j'aime beaucoup, ou il y a des zones que je préfère au départ, etc. Est-ce que tu serais OK que qu'on puisse essayer une fois comme ça pour voir ce qui se passe pour moi et pour toi si ça te convient. Et donc on aborde simplement le sujet, il faut juste dédramatiser les choses, il faut prendre ça comme un jeu. Dis tiens, je voudrais essayer un truc un petit peu différent, est-ce que tu serais OK d'essayer de faire ça avec moi ou comme ceci ou comme cela et d'aborder le sujet. Et si on voit que la personne a beaucoup de mal à entendre, on peut lui proposer aussi, tiens, mais si on tapotait des points, s'il connaît l'outil EFT, sinon on lui en parle, si vraiment c'est très difficile, on peut aussi essayer de proposer justement une thérapie. On dit, tiens, mais est-ce qu'on n'irait pas voir quelqu'un pour parler un peu de ça entre nous? Il faut évidemment être très 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 sensible et très subtil. Hein, si on voit que la personne est hyper bloquée, on ne va pas lui annoncer ça comme ça tout de go. Ça risque de provoquer plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Mais en tout cas, il faut essayer de maintenir cette communication et en tout cas ne pas se laisser nous aller dans nos projections. Si en tant que femme ou homme, en tant que femme ici, je suis bloquée à l'idée d'en parler à mon compagnon, ben il est clair que mon blocage va rayonner sur mon compagnon. Hein, donc le fait que ça va me stresser, ce stress, ben mon compagnon va le sentir et donc ça peut le stresser et augmenter le problème. Donc on peut travailler là-dessus. Hein, je peux tapoter moi-même en tant que femme et dire, ben voilà, hein, tout ce qui est à l'origine du fait que j'ai du mal et je n'ose pas parler à mon compagnon, j'ai peur de le blesser dans sa masculinité, dans sa virilité, est arrivé. Même si j'ai peur de lui dire que j'ai besoin qu'il passe par certaines zones d'abord, ou qu'il me parle d'abord, ou que il m'attaque pas nécessairement à la hussarde directement, quoique ça peut avoir aussi son intérêt quelquefois. Donc, ben, j'ai juste, je m'ouvre à la possibilité de pouvoir simplement lui dire. Et donc travailler
D'accord.
vraiment déjà sur son propre stress avant de pouvoir l'amener en débat. Il existe aussi toute une série de bouquins. Vous pouvez proposer, laisser traîner des bouquins qui sont super intéressants. Hein. Donc il y a un livre qui, je pense, qui est assez récent, qui est sorti de John Gray, c'est Mars et Vénus sous la couette. C'est super sympa à lire, c'est très drôle parce qu'il y a justement cette explication des mondes complètement différents de l'homme et de la femme. Il y a des ouvrages de Pascal de Sutter, qui est un sexologue belge, mais qui est assez connu, qui écrit plusieurs ouvrages, notamment avec des professeurs du Canada. Au Canada, ils sont très très ouverts sur tous ces thèmes. Donc, il y a plein de ressources que vous pouvez trouver. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser des histoires, des métaphores. Hein. Vous pouvez raconter à votre compagnon, tiens, j'aimerais une fois, j'aimerais juste expliquer ce que je ressens et l'expliquer comme une histoire. Donc jouer avec les choses, ça dépend évidemment de la personnalité de votre compagnon, de votre compagne, mais vous pouvez vraiment adapter votre discours, votre vocabulaire à votre compagnon. Il n'y a personne d'autre mieux que vous qui normalement le connaissez, donc vous pouvez vraiment vous laisser aller. Si maintenant vous vraiment vous estimez que c'est trop difficile, ça vaut peut-être la peine d'aborder le sujet en proposant d'aller voir un professionnel ensemble, et vous pouvez partir du principe que c'est vous qui avez un problème, c'est peut-être pas votre compagnon, qui est peut-être en partie vrai, ne fût-ce que parce que vous avez du stress, hein, et pour amener la pilule, on va dire, plus gentiment et pouvoir justement créer ce dialogue, cette communication. Une fois que le dialogue est créé, souvent les choses se défont d'elles-mêmes, parce que de toute façon, le seul objectif de tout ça, c'est que vous soyez plus heureux ensemble, hein, en tant que personne dans votre sexualité, dans votre épanouissement personnel, mais également en couple. Donc ça part de toute façon d'un sentiment qui est altruiste et qui va vers l'autre. Donc je pense qu'on peut l'aborder comme ça aussi.
Alors justement, est-ce qu'on pourrait faire ensemble quelques rondes pour ça, pour cette difficulté d'en parler dans son couple, pour
Tout à fait.
peut-être je n'ose pas aborder le problème?
Ok. Eh bien, bon, évidemment, normalement, je poserai plusieurs questions. D'abord, de savoir si ça a toujours été comme ça, si c'est avec ce compagnon-là en particulier, ou
Oui, mais là
compagnon-compagne, à peu près.
on va faire des suppositions.
Ok.
Ça sera
Donc,
un peu générique.
Je vais te poser des questions comme ça, hein, Maria. Donc, est-ce que ça fait longtemps que tu ressens ces difficultés à en parler à ton compagnon ou ta compagne ou c'est récent?
Alors, je vais imaginer, puis pour cette personne, oui, ça a toujours été comme ça. C'est depuis
D'accord.
toujours que c'est difficile d'aborder ces sujets.
Ok. Et dans la famille, c'était un tabou aussi ou c'est
Ah,
quelque chose qui est...
ah oui, bien sûr. Jamais on
D'accord.
parlait de ça à la maison.
Ok. Donc pendant que nous parlons, tout ça, que je pose la question, tu peux déjà commencer à stimuler le bord des doigts. Hein, donc tu fais le bord du pouce vers toi, c'est le côté, c'est là où l'ongle rencontre la chair, sur le côté du pouce vers toi. Même chose au niveau de l'index, même chose au niveau du majeur. Tu peux ou tu ne peux, ou peux ne pas ne faire l'annulaire, parce que normalement c'est de l'autre côté, et tu fais le petit doigt. Hein, donc toujours bord du pouce sur le côté, bord de l'ongle sur le côté. Le pouce étant vers toi pour savoir de quel côté tu vas le faire. Donc tu peux stimuler comme ça pendant que je pose quelques questions. Est-ce qu'avec le partenaire que tu as actuellement, tu as quand même des relations sexuelles épanouissantes ou c'est difficile à cause notamment de ça?
Bah, à cause de ce manque de communication, oui, c'est assez difficile.
Bon.
Parfois, ça va à peu près, mais
D'accord, donc ça n'a
c'est pas
jamais été vraiment le
toujours
pied, quoi.
épanouissant. Oui.
Ok, d'accord. Écoute, on va démarrer un tapping et puis tu me dis si tu sens qu'il y a des choses qui bougent dans ton corps, s'il y a des événements qui reviennent, hein, on va d'abord un petit peu aller voir. Est-ce que tu as quelqu'un qui se considère comme quelqu'un de séduisant, de plaisant?
Oui,
Oui,
oui.
ok, d'accord. Est-ce qu'au niveau de ton physique, est-ce que tu sens que tu es à l'aise avec ton corps ou c'est difficile avec ton corps?
C'est assez difficile.
D'accord. Est-ce qu'il y a
Pas
des parties de
facile
ton corps que tu
d'accepter
détestes plus que
ça.
d'autres? Oui?
Oui. Enfin, il y
D'accord.
en a assez peu que j'accepte avec facilité, on va dire.
D'accord. Alors, est-ce que c'est OK de nommer ces parties ou est-ce que c'est difficile pour toi maintenant?
C'est difficile d'en parler, oui.
D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... on va utiliser le mot corps, hein, pour illustrer toutes ces parties, d'accord? Mais tu vas juste demander à ton inconscient de bien serrer toutes ces parties de corps qui t'embêtent. D'accord? On
D'accord.
fait comme ça? Alors on peut démarrer, donc tu tapotes par exemple le poing karaté, tu dis ok, mais même si j'ai toutes ces difficultés avec mon corps,
Même si j'ai toutes ces difficultés avec mon corps.
je m'aime et je m'accepte totalement et profondément.
Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément.
Ou peut-être pas du tout.
Ou peut-être pas du tout par moment, oui.
Voilà. Même si j'ai beaucoup de difficultés à discuter avec mon compagnon de ça.
Même si j'ai beaucoup de difficultés à discuter avec mon compagnon de ça,
De cette sexualité, de la sensualité.
de cette sexualité, de la sensualité.
Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément, ou peut-être pas.
Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément, ou peut-être pas.
Pas. Et c'est naturel que je puisse avoir ces blocages.
C'est naturel que je puisse avoir ces blocages.
Dans ma famille, c'était un tabou total.
Dans ma famille, c'était le tabou total.
C'est à peine si on ne devait pas sortir habillé de la tête aux pieds et on ne pouvait rien voir.
C'est à peine si je devais pas sortir habillée de la tête aux pieds pour qu'on ne puisse rien voir.
Voilà. Et dès que les garçons, c'était des tabous.
Les relations avec les garçons, c'était des tabous.
C'est tout juste si en les regardant, on ne devenait pas enceinte.
C'est tout juste si en les regardant, on ne devenait pas enceinte.
Peut-être d'ailleurs que c'est arrivé, sans que je le sache.
Peut-être que d'ailleurs c'est arrivé sans que je le sache.
Voilà. Ou peut-être comme Roland McDane le disait, c'est quand il m'a mis hein, son nez dans les yeux, hop, j'étais enceinte.
Peut-être qu'effectivement, si je regarde quelqu'un dans les yeux, je risque de tomber enceinte.
Alors, en parler au compagnon, à l'homme que j'aime, c'est impossible.
Et d'en parler avec mon compagnon, avec l'homme que j'aime, c'est impossible.
C'est beaucoup trop dangereux.
C'est beaucoup trop dangereux.
En parler avec les gens que j'aime, ils vont me rejeter si je les bloque, si je les choque.
Si j'en parle aux gens que j'aime, ça va les rejeter, ça va les bloquer.
Ben oui, c'est clair, ils vont plus vouloir de moi.
C'est clair, ils vont plus vouloir de moi.
Surtout que je suis vraiment horrible.
Surtout que je suis vraiment horrible.
Il n'y a aucune partie de mon corps que j'aime.
Il n'y a aucune partie de mon corps que j'aime.
Et donc c'est pour ça que je suis sorti avec un compagnon aveugle.
D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé un compagnon aveugle.
C'est au moins, voilà, il peut me voir, mais avec les doigts.
Au moins, il peut me voir, mais seulement avec les doigts.
Mais au travers des vêtements, parce que je ne peux pas les enlever.
Mais au travers des vêtements, parce qu'il n'est pas question que je les enlève.
Et j'ose pas lui dire que j'aimerais bien enlever mes vêtements quand même.
J'ose pas lui dire que j'aimerais bien les enlever quand même.
Ou j'aimerais bien qu'il me parle d'abord.
Mais j'aimerais bien qu'il me parle d'abord.
Mais je peux pas lui dire, je risque de le choquer, de le heurter.
Mais je peux pas lui dire, je risque de le choquer, de le heurter.
Ouais, c'est clair.
Ouais, c'est clair.
J'ai bien trop peur.
J'ai bien trop peur.
Et là, je vais tapoter par exemple sous l'œil avec j'ai bien trop peur. Parce qu'il y a une raison particulière, c'est hein, donc le méridien de l'estomac est lié plus particulièrement à la peur, et donc il est juste sous l'œil, c'est le point sous l'œil. Donc j'ai vraiment trop peur.
J'ai vraiment trop peur.
Ça m'angoisse terriblement.
Ça m'angoisse terriblement.
Et là, je vais stimuler par exemple le point bord du sourcil, hein, donc à côté du nez. Donc vous pouvez tapoter les points d'EFT dans l'ordre, vous pouvez les faire dans le désordre en fonction des émotions que vous repérez. Si vous repérez sur la tête du patient, la personne, certaines émotions, du stress, de la peur, de la colère, on va stimuler certains points plus précisément pour accélérer le processus. Donc, par exemple, si j'ai peur, je vais tapoter sous l'œil. Oh, j'ai tellement peur de lui.
Ah, j'ai tellement
peur. J'ai peur de
peur.
Son regard, j'ai peur de son toucher.
J'ai peur de son regard, j'ai peur de son toucher.
On va faire sous le sein, donc sous les pectoraux, donc c'est le méridien du foie, donc ça c'est la colère. Je suis en colère contre moi.
Je suis en colère contre moi.
J'en ai marre d'être comme ça.
J'en ai marre d'être comme ça, je m'en veux.
Il y a ma tête qui dit oui et mon corps qui dit non.
Il y a ma tête qui dit oui et mon corps qui dit non.
Je suis en colère contre mes parents aussi.
Je suis en colère contre mes parents aussi.
Ben, si je suis là, c'est qu'ils ont quand même fait l'amour, quoi.
Si je suis là, c'est qu'ils ont même fait l'amour. Ils ont quand même fait l'amour, au moins une fois.
Ils auraient pu au moins m'expliquer.
Ils auraient pu au moins m'expliquer.
Je suis pas né dans un chou ou apporté par une cigogne.
Je suis pas né dans un chou ou apporté par la cigogne.
Voilà. On va tapoter par exemple le bord du pouce, ça c'est toute la respiration. Et j'ai du mal à respirer quand je fais l'amour.
J'ai du mal à respirer quand je fais l'amour.
J'ai du mal à respirer quand je pense à parler à mon compagnon.
J'ai du mal à respirer quand je pense à en parler à mon compagnon.
Il va plus vouloir de moi.
Il va plus vouloir de moi.
Il va soupirer. Il va me dire encore. Oh là là, c'est compliqué.
Oh là là, il va me dire encore. Qu'est-ce que c'est compliqué.
Oh là là, je ne peux pas être spontané avec toi.
Je peux pas être spontané avec toi.
C'est infernal.
C'est infernal.
Et puis je vais par exemple tapoter, commencer à tapoter le bord de l'index, et puis le majeur, etc. Donc, et si tout ça, ce n'était pas tout à fait vrai?
Et si tout ça, ce n'était pas tout à fait vrai?
Et si finalement j'étais quand même relativement mignonne?
Et si finalement j'étais quand même relativement mignonne?
Et si mon compagnon m'aime au-delà de mes peurs et de mes blocages?
Et si mon compagnon pouvait m'aimer au-delà de mes peurs et de mes blocages?
Après tout, ça fait, mettons, 5 ans qu'il est avec moi, ou 10 ans qu'il est avec moi.
Après tout, ça fait 5 ans qu'on est ensemble.
Peut-être que je pourrais m'ouvrir à la possibilité.
Peut-être que je pourrais m'ouvrir à la possibilité.
Qu'il ne m'aime pas que pour ma sexualité.
Qu'il ne m'aime pas que pour ma sexualité.
Peut-être qu'il m'aime aussi pour des tas d'autres raisons.
Peut-être qu'il m'aime aussi pour des tas d'autres raisons.
Et s'il m'aimait bien plus profondément que je n'en ai peur?
Et s'il m'aimait bien plus profondément que je n'en ai peur?
Et si je pouvais simplement lui dire tout ce que je ressens pour lui?
Et si je pouvais tout simplement lui dire tout ce que je ressens pour lui?
Et si je me donnais la possibilité de simplement pouvoir parler avec lui?
Et si je me donnais la possibilité de simplement parler avec lui?
Et si je me donnais la possibilité de pouvoir m'aimer moi-même suffisamment?
Et si je me donnais la possibilité de m'aimer moi-même suffisamment?
Alors même si, alors par exemple le dessus de la main, parce que le dessus de la main, donc c'est ce que, entre la petite vallée entre le petit doigt et l'annulaire, hein, c'est le triple réchauffeur. Mm-hmm. Le triple réchauffeur, c'est vraiment la survie. Et souvent dans ce type de problème, c'est vraiment une question de survie. C'est comme si on allait mourir, quoi. On a peur d'être vraiment mis à mal. Donc on va tapoter sur le dessus de la main, et puis là je vais refaire le fameux recadrage en 5 points. Donc, même si je suis vraiment terrorisé à l'idée de parler à mon compagnon.
Même si je suis terrorisé à l'idée de parler de ça à mon compagnon.
Je m'aime et je m'accepte plus ou moins.
je m'aime ou je m'accepte, plus ou moins.
Ou totalement et profondément.
Ou totalement et profondément.
C'est vraiment totalement logique et naturel que je sois hyper paniqué à l'idée de lui parler.
C'est vraiment totalement naturel que je sois paniqué à l'idée de lui en parler.
Parce que dans ma famille, c'était vraiment un tabou. Et d'un autre côté... Une autre réalité. C'est que j'étais une chouette petite fille, j'étais une chouette ado, je suis une chouette adulte maintenant.
C'est que j'ai été une chouette petite fille, une chouette ado, et je peux être une chouette adulte maintenant.
J'ai des amis, je ne suis pas complètement isolée. J'ai un compagnon qui m'aime. Et donc je m'ouvre simplement à la possibilité... Que je puisse simplement vivre les choses différemment. Plus légèrement. Et puis on continue à faire des rondes de tapping en rappelant par exemple plus légèrement, je suis complètement paniqué, en passant à chaque fois de point en point, donc par exemple sourcil, je suis paniqué. Bord de l'œil, je suis en rage.
Sous
l'œil, j'ai peur. Sous le nez, plus légèrement. Vivre les choses différemment. Sous les clavicules, donc c'est les reins. Donc les reins, c'est la volonté, la volition. C'est souvent lié au plexus. Donc on va parler justement de la capacité, de la puissance ou de l'impuissance. Donc c'est impossible pour moi. Je suis totalement impuissante par rapport à cette situation.
C'est impossible, je me sens impuissante dans cette situation.
Sous le bras, par exemple, c'est rate pancréas, le poing. Donc sous le bras, c'est toutes les pensées obsessionnelles, les ruminations. Oh, j'y pense tout le temps.
C'est impossible.
Je vois arriver le samedi, parce que c'est là que les gentils font l'amour.
Je vois arriver le samedi avec horreur.
Je me dis, ça y est.
Il va falloir fournir.
C'est l'horreur. J'ai trop peur.
Je passe à la casserole, ouais.
Voilà. Ou le dimanche, c'est le jour de la poule au pot, c'est mon jour de fête.
Ouais, le dimanche, c'est la fête pour le pot.
sous les pectos, sous les seins, oh, je suis en colère contre lui, je suis en colère contre moi.
Ah, je suis en colère contre lui, contre moi, contre mes parents,
contre tout le monde. Je suis en colère contre la vie, contre mes parents.
Ah, oh, c'est trop injuste, je suis en colère.
Voilà, exactement, c'est infâme. Alors, bord du coup, c'est nouveau, et si je m'autorisais à respirer?
Et si je m'autorisais à respirer?
Bord de l'index, et si ce n'était plus nécessairement vrai que je dois paniquer?
Et si ce n'était plus nécessairement vrai que je dois paniquer?
Sans jeu de mots. C'est important de changer de mots.
Oui, c'est fini le paniquer, ça se trouve.
Et si mon cœur s'ouvrait simplement à lui parler?
Et si mon cœur et mon corps s'ouvraient tout simplement à lui parler?
Alors, le majeur, parce que c'est péricarde, c'est l'organe cœur, c'est toute la région du cœur, justement. Le petit doigt, c'est le cœur. Et si je laissais parler toutes mes émotions? Et puis, de nouveau, le dessus de la main, et si tout ça se passait bien mieux que je ne l'imagine? Voilà, et on va continuer comme ça à tapoter, faire des rondes. Et normalement, vous allez voir qu'en alternant des petites touches d'humour, de sensibilité, des petits jeux de mots, utilisant aussi toutes les peurs qui peuvent être là, on va désensibiliser les peurs, et puis on peut commencer à installer des petites ressources. Et si je pouvais me voir en train de lui faire l'amour, comme j'ai envie de lui faire l'amour, etc. Donc on va vraiment pouvoir renforcer. Mais ce qui est important, c'est de bien désensibiliser les racines négatives, hein, et de ne pas faire que du positif.
Sauf si vous touchez
à des gens qui ont eu des traumas compliqués, dans ce cas-là, il vaut mieux d'abord travailler vraiment sur ces ressources, et puis seulement, tout doucement, aller désenclencher, désactiver, désensibiliser les aspects négatifs ou les déclencheurs de stress du présent pour justement éviter de vouloir aller trop vite et de peut-être re-blesser la personne. Donc ça, c'est un travail un petit peu différent, mais voilà. Et donc, en travaillant comme ça, avec beaucoup d'amour aussi, hein, bon, je ne sais pas si Maria, si tu as pu sentir, mais il y a beaucoup de respect, beaucoup d'amour en même temps dans le tapping. Et voilà, et donc ce lien, c'est super intéressant, c'est super riche pour le patient ou les clients.
Oui, et puis installer déjà la confiance pour pouvoir en parler, pour exprimer, ça c'est vraiment la première étape.
Parce que avec cet humour, avec cet amour, Ben, on voit bien que la personne, je veux dire, on voit tout l'humain qui est à travers ça, tout cet aspect sensible, et donc on peut vraiment, vraiment aller très très loin et vraiment aider très très simplement, je trouve, les gens, quoi.
Oui. Eh bien, merci beaucoup, Yves, pour toutes ces pistes. Je pense que aussi bien les femmes que les hommes de toute orientation et de toute origine ont pu trouver des informations là-dedans. Merci d'avoir débloqué quelques tabous, justement, et d'insister sur cette importance de l'humour aussi et de la connexion, bien sûr. Il faut faire ça en confiance avec nos patients, nos clients. Un dernier conseil pour les hommes et les femmes qui se sentent bloqués dans ce domaine?
Le conseil, on en a beaucoup parlé, mais c'est vraiment communiquer. Franchement, travailler sur cette peur de communiquer, la communication, la sensibilité, le respect de l'autre, c'est fondamental. Et après, franchement, il n'y a aucun tabou. Je suis très étonné de voir des personnes qui avaient énormément de blocages, qui après ont pu commencer à parler des choses bien plus simplement, et ça a eu plein de répercussions dans des tas d'autres aspects de leur vie, évidemment, hein. C'est que du coup, ça crée une confiance en soi, évidemment, qui est bien plus grande, et du coup, ça leur permet de déplacer, de remettre les pendules à l'heure, hein, de retrouver un juste milieu dans tous les pans, dans tous les domaines de leur existence. Donc, c'est super important. Communication, communication, toujours communiquer. Ouais.
Oui.
Et le corps est un outil de communication aussi. Les sentiments sont un outil de communication, bien entendu.
Oui.
Voilà.
Et quand c'est difficile d'en parler, justement, le fait peut être un outil pour débloquer ce stress et pour que ça devienne facile et que la communication coule de source.
Tout à fait.
Très bien. Et ben, je suis sûre qu'il va y avoir des questions des auditeurs et des auditrices. On va ouvrir le chat et il va répondre à vos questions dans quelques minutes. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes les activités de son institut Therapeutia, vous pourrez faire un tour sur le site therapeutia.com où vous pourrez éventuellement également contacter Yves si vous avez des questions ou besoin d'aller plus loin dans ces domaines. Merci beaucoup, Yves. À tout de suite pour les questions.
Oui, merci.